Il est 11h sur Fréquence Mistral et c'est le générique de notre première émission pour ces correspondances Méga.
Oui, merci Emeline. Bonjour à tous et bienvenue dans cette émission spéciale correspondance, la première de quatre émissions qui se poursuivront jusqu'au samedi. Avec moi, trois invités, Olivier Chaudançon, bonjour. Vous êtes le directeur des correspondances. René Frény, vous êtes écrivain, vous êtes à l'honneur pour votre livre La Ville Rouge dans ses correspondances. Bonjour.
Bonjour.
Et Henri Méroux qui n'est pas là, qui devrait certainement arriver. On l'espère en tout cas. Il est quant à lui calligraphe, c'est bien ça. On va commencer avec vous, Olivier. On va parler des correspondances. Alors déjà, 15 ans, joyeux anniversaire. C'est un
Merci.
Très bel âge.
C'est pas mal, c'est pleine adolescence.
Ouais, bientôt la maturité. Qu'est-ce que vous en retenez de cet âge ?
Alors, retenir de cet âge, c'est un peu tôt. Il faut que j'ai du recul par rapport à cet âge. Ce que je retiens, c'est ce chemin de 15 ans. Et c'est vrai que du coup, me reviennent des images de la première édition. René était déjà là. Et d'ailleurs, c'est pourquoi on a décidé de faire une exposition rétrospective sur les correspondances. De deux façons, à la fois en demandant aux photographes professionnels qui nous suivent depuis l'origine. Et puis également aux festivaliers, aux Manosquins. On a lancé un appel, on leur a demandé de nous envoyer des photos. Et donc, ces deux regards, celui des photographes professionnels et des Manosquins seront exposés, l'un à la galerie de la MJC, l'autre sous la forme d'une sorte de diaporama projeté chaque soir, Théâtre Jean Le Bleu. Donc c'est vrai que c'est l'occasion de revoir des scènes de la première, deuxième édition, des choses que j'avais en tête mais un peu enfouies, et c'est assez émouvant.
Le festival a-t-il évolué autour pendant ces années ?
Bien sûr. Il a grandi, il a évolué, il a trouvé ses marques. Je crois qu'il y avait de toute façon, dès l'origine, l'identité qui était posée. Hein, cette envie de donner une scène à la littérature, cette envie de voir avec les écrivains comment leur donner la parole. Est-ce qu'ils ont envie de parler de leur livre ? Ou alors est-ce qu'ils estiment qu'ils ont tout dit dans leur livre et à ce moment-là, ils préfèrent le lire, ils préfèrent venir avec un artiste, un musicien, un photographe. Donc il y avait déjà ça. Il y avait l'idée de transformer peut-être le regard sur la ville aussi avec les écritoires et mettre cette ville en fête. Vraiment l'idée d'être aussi dans les rues et sur les places. Et puis il y avait l'idée de convoquer les autres formes de création pour les mettre au service de la littérature. Je pense aux comédiens lorsqu'ils viennent lire des textes, je pense aux musiciens lorsqu'ils viennent mettre en musique des textes. Donc voilà, la carte d'identité, l'empreinte génétique était déjà là, et puis après le festival, il a suivi son chemin, il a grandi, et depuis quelques années, on se réjouit de voir autant de monde dans les rues de Manosque et dans les salles.
Oui, avec un public qui, vous trouvez, joue le jeu de plus en plus.
Il joue le jeu et ce qui me touche le plus, c'est qu'il joue le jeu dans le bon sens, c'est-à-dire que je crois qu'il a vraiment confiance dans le festival et il vient là pour découvrir. Une autre façon d'exprimer, c'est de dire que les premières années, peut-être, les salles très pleines, c'était vraiment corrélé à la notoriété des artistes qui étaient invités. Aujourd'hui, les salles pleines sont indifférentes à la notoriété. Vraiment, le public vient là pour découvrir des auteurs qu'il ne connaît pas, retrouver ceux qu'il connaît déjà, mais découvrir de jeunes auteurs, des auteurs qui n'ont pas une audience énorme. Et donc voilà, cette idée de rebattre un peu les cartes par rapport à ce qui se passe dans les grands médias me touche profondément parce que ça nous donne une très belle liberté de programmation.
Une curiosité grandissante donc.
Oui, je crois.
L'idée donc c'est de rendre une pratique qui, même dans sa création, est assez solitaire et dans sa consommation, on va dire, est assez solitaire aussi, la lecture, de la rendre publique, festive, joyeuse.
Absolument, c'est vraiment ça. Écrire, c'est une pratique solitaire. Lire, c'est théoriquement une pratique solitaire. Et c'est vrai que ce festival permet d'inventer la notion de collectif par rapport à la littérature. Ce plaisir d'être ensemble pour entendre des textes, entendre des auteurs, c'est une chose. Et puis à nouveau, c'est aussi de dire que la littérature, c'est aussi un art vivant. C'est exactement ce qui se passe sur les scènes lorsqu'il y a des lectures ou des échanges sur le vif avec les écrivains. Certes, les écrivains sont dans leur bureau, dans la solitude, les doutes de la création, mais à un moment, après le livre, existe le texte en dehors du livre, et voilà pourquoi la littérature est aussi un art vivant.
Ils ont besoin de ça pour nourrir leur art.
je crois.
On va parler un petit peu du programme, Olivier. On va parler plus précisément du programme d'aujourd'hui, peut-être plus généralement de tout le programme. On a des temps forts, on a de beaux moments prévus pour cette 15e édition.
Ah, écoutez, j'espère. Alors, en tout cas pour aujourd'hui, l'inauguration officielle, c'est à 17h, mais en fait, le festival a déjà démarré parce que déjà dans toute la ville, il y a des ateliers, il y a un petit déjeuner au livre avec les enfants et l'illustratrice, jeunesse en résidence, qui est Louise Eugel. Et puis aujourd'hui, fin de journée, dans la soirée, le festival s'ouvre autour d'une figure majeure qui est celle d'Albert Camus, puisque la première grande rencontre littéraire réunira deux auteurs qui ont écrit sur Albert Camus, Abdelkader Djemaï et Salim Bashi, mais également Alban Cerisier des éditions Gallimard, qui s'occupe de publier en ce moment différentes correspondances d'Albert Camus qui étaient encore inédites jusqu'à présent. Donc c'est une façon de partir autour de cette figure qui nous est chère, et c'est en plus le centenaire d'Albert Camus. Et puis ce soir au Théâtre Jean Le Bleu, la première grande lecture, moi, mais particulièrement importante, parce que le texte, il s'agit du premier homme, le manuscrit inachevé d'Albert Camus, que je tiens pour un chef-d'œuvre. Enfin, c'est assez sidérant quand on sait que ce texte était inachevé, mais c'est sidérant de maturité et puis de richesse, parce qu'il y a tout le projet littéraire d'Albert Camus et toute sa position philosophique qui est exprimée à travers un récit absolument limpide et accessible à tous. Et pour faire entendre ce texte, c'est Charles Berling qui sera avec nous ce soir au Théâtre Jean Le Bleu.
À quelle heure ?
À 21h.
À 21h, merci. Il y a une autre nouveauté dans les correspondances, c'est qu'elle s'exporte à Sainte-Tulle. Il me semble que ça n'avait jamais été fait avant. Donc on a des écritoires qui vont être à l'honneur à Sainte-Tulle. Agathe Bénat, notre collègue, a rencontré une personne qui se charge de ça. C'est un écritoire donc, qui est installé dans le hall de la médiathèque de la Passerelle pour la durée des correspondances. Cette initiative s'inscrit dans l'année Camus avec une invitation. Vous devrez vous inspirer des mots de l'auteur pour vos travaux d'écriture. Un décor conçu pour l'occasion, vous met rapidement dans l'ambiance, puis il s'agira de correspondance au sens littéral. Samedi 28 septembre, le Club Théâtre du Centre Social proposera des lectures de lettres échangées entre Albert Camus et René Char. Liana Billard, responsable de la médiathèque de Sainte-Tulle, répond aux questions d'Agathe Bénat.
L'hommage à Camus à Sainte-Tulle se poursuit cet automne encore. Vous vous inscrivez à cette occasion dans les correspondances de Manosque.
Oui, cette année, nous nous inscrivons pour la première fois dans les correspondances avec un écritoire qui va être consacré à Camus. Nous allons faire une installation à côté de la médiathèque et nous allons inciter les gens à écrire, à répondre à Camus ou réagir par rapport à une phrase, une citation.
Quelques mots sur cette installation créée pour justement placer le visiteur dans une certaine ambiance.
L'installation va être avec une ambiance camusienne, donc des dessins, des portraits de Camus qui étaient faits par les collégiens de Sainte-Tulle.
Concernant l'écritoire, les gens devront s'exprimer sur un sujet particulier, devront s'inspirer d'une œuvre particulière de Camus.
Le sens même de l'écritoire, c'est que c'est libre, mais nous allons leur proposer des débuts de phrases, des citations de Camus à laquelle ils pourront répondre, écrire ou s'inspirer.
Samedi 28, il sera question d'une correspondance entre Albert Camus et René Char.
Une sélection de lettres échangées entre Albert Camus et René Char sera lue par des comédiens du Club Théâtre du Centre Social de Sainte-Tulle. Cette correspondance s'étale sur une décennie entre 1946-59 et reflète leur amitié. En effet, Camus prend contact avec René Char, ou plutôt René Char prend contact avec Camus par rapport aux feuillets d'hypnose qui sont publiés dans la collection Espoir menée par Camus. Et les deux hommes se lient d'une amitié profonde. Leur voix porte sur la révolte, le désir et la beauté. La correspondance, les lettres qu'on a choisies parlent de la terre provençale, de l'amour, de l'Algérie et surtout de leur amitié profonde.
Alors, je voudrais revenir sur l'écritoire. Pour les gens qui voudraient donc se rendre à Sainte-Tulle à partir de mercredi, est-ce que vous pouvez nous rappeler les horaires d'ouverture de la médiathèque?
L'écritoire va être installé dès le matin, donc à 9h et jusqu'à 18h. Et sera à la passerelle, un lieu symbolique, et sera libre d'accès.
Tous les jours?
Tous les jours, de mercredi au samedi.
Retour en plateau dans cette émission spéciale sur les correspondances. Olivier Chiodanson, on va parler un petit peu des artistes, musiciens, écrivains et également acteurs présents lors de cette 15e édition des correspondances.
Comme chaque année, on fait une assez large place à la musique parce qu'on a vu au fil des ans que la musique est une très belle façon de faire entendre les textes, de les accompagner, de les nourrir. Donc on aime beaucoup faire ces croisements-là. Et c'est vrai que cette année, on a invité certains plateaux musicaux qui sont des habitués des correspondances. Je peux penser à jeudi soir où le concert littéraire sera une sorte de dialogue entre Arnaud Catherine, écrivain, qui fait partie par ailleurs de l'équipe des correspondances. Alors c'est pas une invitation de complaisance, c'est une invitation de complicité au sens amical du terme. Et il sera accompagné par un chanteur, Florent Marchais. Et ça nous intéressait en particulier parce que ça fait partie de l'histoire du festival. Arnaud Catherine et Florent Marchais se sont rencontrés à Manosque il y a 10 ans. Et depuis n'ont cessé de développer des projets en commun, de livres-disques, littérature et musique. Voilà, donc c'est emblématique à la fois de ces croisements que les correspondances aiment faire et aussi de ces aventures artistiques qui naissent ici. D'autre part, nous accueillerons Joseph Danvers qui a mis en lecture et en musique un roman américain formidable qui s'appelle « Dead Boys » de Richard Lange, et puis un autre habitué des correspondances que j'adore, qui s'appelle Bertrand Belin, un chanteur exceptionnel. Et cette année, quand je lui dis « Est-ce que tu reviendrais faire un concert littéraire à Manosque ?», on a réfléchi, il a souhaité travailler autour des textes d'un immense poète qui s'appelle Christophe Tarkos, marseillais, mort il y a une dizaine d'années, très jeune, à 40 ans, mais c'est vraiment pour moi un repère dans la poésie contemporaine. Et puis une forme un peu étrange que nous avons initiée l'année dernière, ce sont les siestes acoustiques, musicales et littéraires.
Alors ces siestes acoustiques et littéraires, est-ce que ça fonctionne vraiment? Les gens s'endorment comme ça, bercés par la musique et les mots?
Il arrive parfois qu'on entende quelques légers ronflements. Donc parfois, oui, 2 ou 3 personnes s'endorment. Mais c'est vrai que la règle du jeu, elle est simple, et c'est un jeu au fond, mais un beau jeu artistique. Les musiciens, chanteurs jouent en acoustique. En l'occurrence, il s'agira de Bastien Lallemand, J.P. Nataf, Claire Diterzy. Et puis entre chaque chanson, un auteur du festival vient lire un texte en résonance avec la chanson. Alors le public, lui, il est plongé dans la pénombre. On l'invite à s'allonger et à écouter comme ça les yeux fermés. Et c'est vrai que la règle qui est donnée, c'est n'applaudissez pas. Par contre, si vous voulez vous endormir, allez-y. Alors voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure. Certains s'endorment, mais la plupart écoutent et découvrent que justement cette écoute dans la pénombre ouvre l'attention et l'oreille. Voilà, je pense qu'on a des perceptions plus fines dans ce dispositif-là.
Une expérience sensorielle très intéressante. Donc, on va parler des écritoires peut-être disséminés au travers de la ville. Donc, chacun peut écrire ce qu'il veut. Comment ça se passe ensuite? Comment ces mots sont récupérés? Quel est le cheminement de ces mots?
Déjà, dans chaque écritoire, on trouve tout ce qu'il faut pour écrire. De quoi s'asseoir, de quoi. Enfin, on trouve des enveloppes, du papier, stylo, etc. Donc, on écrit à qui on veut et ensuite on dépose cette lettre dans quelques grandes boîtes aux lettres signalées dans la ville et on se charge ensuite d'expédier tous ces courriers. Les écritoires eux-mêmes sont très différents les uns des autres. L'idée, c'est de créer la surprise, de déclencher l'imaginaire. Donc, chaque année, de nouveaux écritoires viennent s'installer dans la ville. Beaucoup sont créés par le plasticien Jean Lautret, extrêmement talentueux. Et parmi les plus spectaculaires, il y a ce salon perché qui est place de l'Hôtel de Ville, une immense arbre métallique. On peut y monter, il y a une plateforme en haut avec un salon, donc on peut s'installer en dominant un petit peu la place de l'Hôtel de Ville, la voir telle qu'on ne la voit jamais, sauf ceux qui ont la chance d'avoir une terrasse sur la place de l'Hôtel de Ville, comme René Frégny. Donc voilà, on écrit comme si on était sur la terrasse de René Frégny, mais on est dans un arbre. Et puis... il y en a une autre aussi que je trouve magnifique, nouvelle cette année, Place Saint-Sauveur, autour de la fontaine. Enfin voilà, il faut découvrir, ce sont des installations étonnantes. Il y en a une centaine à Manosque, et puis il y en a aussi dans une vingtaine de communes et villages alentours, disséminés, voilà. Certaines nous les faisons, d'autres ce sont les commerçants qui les font, d'autres encore sont faites par des associations. Voilà, c'est une façon de créer un lien, et avec les festivaliers, et avec les acteurs locaux de toute nature, et avec ce territoire justement qui est évidemment plus large que Manosque.
Ouais, encore une fois, tout le monde joue le jeu. Alors en fait, les 100 ans de Albert Camus, enfin, les 100 ans de sa naissance en tout cas, ça a une résonance particulière dans les correspondances cette année Camus ?
Pour moi oui, parce que je tiens Albert Camus comme un auteur majeur, tout simplement. Ensuite, il a un lien à la région, évidemment. Il a résidé à Lourmarin, mais je dirais que ça, c'est un motif accessoire. Vraiment, l'essentiel pour moi, c'est qu'Albert Camus est un immense auteur, un immense penseur, quelqu'un qui a été courageux toute sa vie parce qu'il n'a pas hésité à se mettre à dos de courants politiques, d'amis, etc. À chaque fois qu'il n'était pas d'accord, il a suivi sa route sans se préoccuper de ce que ça allait provoquer comme tension, comme rejet de sa personne. Et voilà, donc pour moi, c'est vraiment une figure exemplaire. Et il me semble que quand on relit ses textes, qu'il s'agisse de textes romanesques ou de textes philosophiques ou de textes politiques, ça n'a pas pris une ride et il reste un guide assez fiable. Alors voilà, il s'est trompé comme tout le monde aussi un petit peu, mais voilà, c'est une belle figure. Moi je trouve que c'est important de continuer à donner l'envie de le lire.
On peut remarquer également que c'était un auteur qui n'a jamais voulu rentrer dans l'élite, on va dire, des écrivains. Il a jamais voulu oublier d'où il venait, même si c'était un philosophe. Donc, quelque part, il va bien en résonance avec cette manifestation qui rend populaire l'art littéraire, qui peut-être l'extirpe un petit peu d'une certaine élite, d'un groupe de personnes.
Oui, non, c'est une dimension importante. En effet, dans l'œuvre d'Albert Camus, on sent bien la conscience de classe très, très aiguë. Il n'a jamais oublié l'extrême pauvreté, les rues d'Alger, un père mort à la guerre, une mère quasiment muette et sans éducation. Donc il n'a jamais oublié d'où il venait. Pour autant, il en a pas fait non plus un étendard pour faire sa promotion, mais voilà, il avait cette conscience aiguë, comme peut l'avoir aujourd'hui en littérature contemporaine quelqu'un comme Annie Ernaux, qui a jamais oublié d'où elle venait non plus. C'est important, et puis c'est important aussi parce que ça permet aussi de bousculer quelques idées reçues. Certes, le milieu littéraire a bien des défauts comme tous les milieux. Il a un côté, par certains aspects, comme on dit, parisien, germano-pratin, des gens qui se connaissent, qui travaillent en réseaux journalistes, etc., des réseaux d'amitié, mais ça n'est pas que ça, quoi. Vraiment, ça ne se résume pas à ça. Et puis voilà, il y a des... On n'est pas obligé d'être né à Saint-Germain-des-Prés pour écrire, pour être publié, pour devenir un grand auteur. Et heureusement, il y a quelques noms qui nous le rappellent régulièrement à chaque génération.
On en parlera un petit peu après avec René Frégny également de ce sujet qui est assez présent dans son livre. Je vous propose d'écouter une interview de Marc Donato faite par François Malabave. Marc Donato, c'est une personnalité de la région de Manosque, historien et conférencier apprécié. Un léger accent trahit ses origines méditerranéennes et son histoire personnelle commence en Algérie. Je vous propose d'écouter l'interview qu'il a donnée à François Malabave. Marc Donato parle des terrains de son enfance qui sont exactement les mêmes que ceux d'un certain Albert Camus. C'est un éclairage particulier sur Camus que nous vous proposons.
Marc Donato, vous êtes un historien et un conférencier bien connu sur la place de Manosque. Albert Camus et vous, on peut dire que vous avez eu des vies quasiment parallèles.
Oui, il faut rester à sa place. Camus est Camus et Marc Donato est Marc Donato. Mais, il se trouve que d'étranges coïncidences sont apparues quand j'ai préparé ma conférence, cette fameuse conférence intitulée « Algérie, mon amour ». Un Camus qui est né, comme moi, à Bonn, puisque nous sommes pieds noirs tous les deux. Un Camus qui a une histoire familiale pratiquement identique à la mienne, avec une immigration métropolitaine pour une part et méditerranéenne pour l'autre. Un Camus qui est né à quelques jours près, à la même date que mon père. Un Camus qui est venu se soigner à Beaune, sur la plage, à la plage Saint-Cloud, là où justement j'habitais et où j'étais scolarisé. C'est quand même étrange.
Et justement, tout cela, vous l'avez développé dans votre conférence, où on trouve ce mot magnifique d'Algérie, et en même temps, cette déclaration étonnante, mon amour.
Oui, la connotation est facile à comprendre, Algérie, mon amour. Vous comprendrez que c'est à la fois évoquer les sentiments de Camus pour l'Algérie, qui aurait été à la fois très formatrice, mais en même temps destructrice. Et puis bien sûr, mes propres sentiments, Algérie mon amour, un pays que j'ai perdu, un pays que j'ai beaucoup aimé, que je continue à aimer. Donc une similitude dans les deux cas.
Comment est-ce que vous avez vécu, vous, l'après Camus et la célébration actuelle ?
Il y a de tout. Il y a de tout. La façon de voir Camus par les uns et par les autres est très particulière. Chacun essaye de s'approprier Camus aujourd'hui. Si je pars des Algériens, par exemple, ce sont eux peut-être qui sont les plus, je ne veux pas dire les plus objectifs, mais enfin les plus dans la réalité, parce que après avoir longtemps considéré que Camus était un traître à la cause algérienne, alors qu'il s'était dépensé pour elle sans compter, aujourd'hui, les universitaires, les intellectuels reprennent Camus, non pas à leur compte, ce serait abusé, mais voient dans Camus l'homme qu'il était et tel qu'il faut le voir aujourd'hui, même chez nous. Chez nous, après, il y a, c'est l'année Camus, donc du Camus, vous en avez sous toutes les formes, par tous les bords philosophiques ou intellectuels. Et puis, vous avez ceux qui essaient de démontrer que objectivement ce qu'était Camus, et puis il y a ceux qui essayent de récupérer Camus. Je pense en particulier à toute une mouvance qui a dénigré Camus parce que les idées n'étaient pas les mêmes, et qui aujourd'hui voit en Camus l'homme providentiel. Il y a là un abus qu'il faut peut-être faire remarquer.
Et la controverse d'Aix-en-Provence aussi, qui restera marquée, gravée pour les admirateurs de Camus.
Alors la controverse d'Aix-en-Provence, elle transpire de ce que je viens de dire. C'est-à-dire qu'il y a toute une mouvance avec les gens d'Aix et les associations pieds noirs qui font que Camus a été mal vu et que cette exposition n'a pas eu lieu comme elle aurait dû avoir lieu. D'ailleurs, elle n'a pas eu lieu. C'est une autre exposition, mais celle qui devait se tenir ne s'est pas tenue. Avec, bien sûr, le refus de voir certains historiens présider. On a tous entendu parler de cette polémique.
Marc Donato, revenons à l'Algérie, si vous voulez bien. Quelle est l'importance de ce territoire, de cette histoire, de cette culture dans l'œuvre de Camus et pour lui ?
Alors, je crois qu'il faut dissocier. Il faut peut-être faire plusieurs parts dans à la suite de cette question. D'abord, Camus est un pied noir. C'est indéniable. Il est né pied noir et il le revendiquait. Le mot pied noir n'existait pas à l'époque. C'est un Français d'Algérie, n'est-ce pas ? Comme tous les Français d'Algérie, le mot pied noir est arrivé après. Mais Camus était donc un Français d'Algérie. Ensuite, Camus était quelqu'un qui connaissait l'Algérie. C'est-à-dire que, à cette époque-là, donc avant les années 60, les gens d'Algérie, les Français d'Algérie ne voyageaient pas. Ils voyageaient pas pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'ils n'en avaient pas les moyens, ensuite parce que la vogue du tourisme n'était pas encore arrivée, ensuite parce que la plupart d'entre eux n'avaient pas de voiture. Donc connaître l'Algérie de l'intérieur, le pays de l'intérieur, les gens ne savaient pas. Camus le savait, lui, parce qu'il avait beaucoup voyagé. Il avait voyagé pour le théâtre qu'il faisait, auquel il participait. Donc il a circulé dans tout un tas de villes, Bourgoin-Riche, Constantine, Bonne, il n'est pas allé, mais ailleurs aussi, beaucoup de villes. Et puis, il est allé à la recherche, bien sûr, de ses origines, à Oulette Fayette, dans la Mitidja, très déçu. Et puis, il est allé, pour ses activités, sur deux points essentiels. la Kabylie, où ça a été un de ses premiers articles dans Alger républicain, Misère de la Kabylie, qui a été le début de son engagement. Et puis il a pris part aussi, il a pris parti après les événements de Sétif de 1945. Et puis Camus, c'est deux sites, j'allais dire trois sites importants, Oran, qu'il n'a pas du tout aimé, c'est d'ailleurs là qu'il, c'est le décor de la peste, et les Oranais vont lui en vouloir. Et puis Camus a vu dans cette Algérie, qu'il aimait par-dessus tout, trois éléments essentiels, la mer, le vent, la pierre. Et il va trouver ça dans deux autres endroits, Djamila, qui est la ville morte, et surtout Tipaza. Tipaza, ça va être la révélation pour Camus.
Marc Donato, est-ce qu'on peut dire que l'histoire de Camus aurait pu terminer différemment?
C'est difficile à dire. Après la mort de Camus, on peut toujours hypothéquer. Mais ce qu'il faut considérer, c'est que Camus, à cette époque-là, était un homme complètement fatigué, usé par les polémiques qu'il avait opposées à Sartre, Simone de Beauvoir et à d'autres. Et puis, c'est un homme qui va s'installer dans le Midi parce qu'il veut marquer une rupture avec ce qui avait précédé son attribution du prix Nobel, qui avait fait beaucoup de jaloux. Et Camus va essayer de retrouver à Lourmarin une part de son Algérie. Qu'est-ce qu'il aurait fait? Comment aurait-il fini après l'année 60? Ma foi, est-ce que Camus aurait continué à s'enfoncer dans sa maladie? Il avait été fortement marqué par les dépressions de sa femme. Quelques-uns m'ont dit qu'il se serait peut-être suicidé. C'est vrai que Camus n'a pas connu mai 68, il n'a pas connu les barricades qui sont arrivées quelques jours après sa mort. Il n'a pas connu l'indépendance de l'Algérie. Et Camus aurait pu finir aussi autrement. C'est une opinion tout à fait personnelle, qui n'est étayée absolument par rien, sauf par une thèse qui a été tenue par deux étudiants italiens, mais je n'y adhère pas. On peut toujours penser que Camus aurait été abattu par un tireur de l'OAS.
Une vengeance.
Une vengeance ou, dans cette période extrêmement troublée de la période de l'indépendance de l'Algérie, un acte comme un autre commis par des extrémistes.
Marc Donato, cette année, c'est l'année Camus, on le sait bien, et Manosque n'échappe pas à la règle. Ce soir, c'est Charles Berling qui va jouer le premier homme. Vous y serez et vous serez très attentif à la fois son jeu et puis ce texte magnifique.
Je serai d'abord à l'apéritif qui aura lieu sur la place de la mairie, où il y aura des lectures de lettres de Camus, et je serai bien sûr au spectacle de Charles Berling, parce que lecture du premier homme, c'est extraordinaire. J'y serai.
Quelles sont les œuvres de Camus que vous préférez?
J'en ai lu beaucoup, j'ai pas la prétention d'avoir tout lu, j'en ai lu beaucoup, et je crois que La Peste est absolument incontournable, d'autant plus que j'ai eu l'occasion de travailler sur La Peste en Provence, et à Sainte-Tulle en particulier. Donc La Peste, pour moi, ça a un relent assez particulier. Et puis, il y a ces correspondances qui sont souvent méconnues et qui sont très, très agréables à lire et très instructives. Alors après, bien sûr, il y a tous les textes philosophiques, mais je dois dire que la philo, c'est pas trop mon affaire. Donc je reste autour de ça. Et j'ai beaucoup lu aussi pour ma conférence des livres qui sont sortis récemment. Je pense à Onfray, par exemple, pour ne parler que de lui, mais d'autres livres qui sont sortis et qui sont très intéressants pour illustrer l'œuvre de Camus.
Vous allez redonner d'ici la fin de l'année Algérie mon amour?
Je vais redonner Algérie mon amour. Je crois que j'ai 4 dates dans la région, essentiellement dans des associations privées, dans des associations. Mais si quelqu'un ou une association veut, ou une mairie veut que je fasse cette conférence, c'est toujours bénévolement et toujours avec un grand plaisir que je la donnerai.
Et nous ferons le lien dans ce cas-là. Merci beaucoup Marc Donato, à très bientôt.
Merci, au revoir François.
Seconde partie de notre émission consacrée aux correspondances. Encore merci Olivier Chaudançon pour votre intervention. On va parler maintenant de René Frény et de son livre Sous la ville rouge. J'ai choisi la musique de Taxi Driver parce que c'est vrai que votre livre m'a bien évoqué cette ambiance. D'ailleurs, il y a une citation qui préface votre livre qui dit « Dans chaque rue, il y a un inconnu qui rêve d'être quelqu'un. C'est un homme seul, oublié, qui cherche désespérément à prouver qu'il existe. » Est-ce que vous trouvez que cette phrase correspond bien à votre livre ?
Oui, dans chaque rue, il y a un homme qui rêve d'être quelqu'un, mais c'est le but de la vie, exister. Un acteur qui joue tout seul dans une rue, devant trois personnes, il a envie d'avoir des spectateurs, un écrivain a envie d'avoir des lecteurs, un instituteur a envie d'être un bon instituteur. On a besoin d'être utile et d'exister. Je crois que c'est le sens de la vie, hein. Sinon tu finis dans un carton, dans un coin de rue comme un clodo. On a besoin d'être aimé, on a besoin de vivre de nos passions. Et là, Charlie Hazard est un écrivain, puisqu'il écrit depuis des années devant le mur de sa cuisine. Il construit des romans un peu hallucinés par les mots, par tout ce qu'il voit, mais il se heurte justement à des refus systématiques. Il n'existe pas. Il existe quand il écrit, mais il n'arrive jamais à exister en tant qu'écrivain.
Oui, parce qu'il a des refus à chaque fois des éditeurs qui, depuis je ne sais pas combien d'années qu'il écrit, est toujours pareil, un refus alors que lui pense que c'est bon ce qu'il fait.
Oui, c'est pour ça que j'ai fait le parallèle avec Taxi Driver, Robert De Niro qui joue ce chauffeur de taxi qui devient parano à force de se confronter à la solitude dans son taxi la nuit. Il lutte contre le mal dans cette ville de New York et il finit par être parano. Et cet écrivain, Charlie Hazard, qui est revenu à Marseille dans sa cuisine pour écrire, pour vivre cette passion, presque son unique passion, l'écriture, quand il ouvre la boîte aux lettres, il voit refus sur refus. Il est heureux dans sa cuisine. Et il est humilié devant sa boîte aux lettres. Voilà, c'est les deux premiers chapitres. Et j'ai voulu mettre justement en opposition cette espèce de bonheur d'écrire et de refus.
Ouais, ce choc terrible, cette torture presque. Donc, vous l'aurez compris, donc, Charlie Hazard, l'histoire du roman, donc, c'est Charlie Hazard qui est un écrivain dont la vie ne se résume presque qu'à écrire. Il a un seul exutoire, c'est la boxe. C'est une façon aussi de quelque part de frapper. J'ai relevé une phrase, c'est Charlie frappait de plus en plus fort dans le sac, un peu plus vite, pour éteindre le feu ardent qui brûlait son ventre, un feu qu'avait allumé la colère, l'humiliation, un sentiment profond d'injustice. Après la première lettre de refus, l'effondrement de ses illusions, s'il était monté sur le ring, il aurait massacré son partenaire et cette humiliation n'avait cessé de grandir au fil des lettres de refus. Il frappait en silence, les dents serrées, la rage travaillant chacun de ses muscles, le moindre de ses nerfs comme une brute. Il frappait ce petit monde d'élus qui veillait jalousement à ce que personne ne pénètre dans ce cercle très privé d'honneur et de lumière. Il y a une petite critique quand même d'une certaine élite littéraire un peu hermétique.
Ce n'est pas une petite critique, c'est une grosse critique, c'est un gros coup de colère. Ce n'est pas un pamphlet, c'est un roman. Mais en même temps, ce type, il écrit comme il boxe et il boxe comme il écrit. Le soir, quand il va taper dans le sac, c'est vrai qu'il se défoule. Il se défoule de ses humiliations, mais il se bat aussi avec les mots. Ce que j'ai voulu montrer, c'est que l'écriture, c'est un combat avec les mots. C'est comme un acte érotique. Moi, les écrivains que j'aime, ce sont des rebelles. C'est Jean Genet, c'est Céline, c'est Emmanuel Bove, c'est le Marquis de Sade. Des gens qui sont battus, qui ont érotisé les mots, qui ont érotisé l'écriture, qui sont battus avec chaque mot. Les mots, il faut les tordre, il faut tordre la grammaire, il faut ployer les phrases, il faut... Voilà, c'est un combat comme la boxe, l'écriture. Et elle est érotique parce qu'elle est un combat. Et ce mec, il combat dans sa cuisine avec chaque mot, et c'est ce qui lui procure du plaisir. Et le soir, il tape dans les sacs comme il a tapé dans les mots. Donc ce que j'ai voulu dire, c'est qu'il y a des écrivains rebelles et qu'on ne peut pas écrire si on n'est pas un peu rebelle. L'écriture, ce n'est pas une rédaction scolaire. Ce n'est pas sujet, verbe, complément. Il faut la pulvériser, l'écriture. Céline disait, il faut dégoupiller une grenade et la balancer sous la coupole de l'Académie française. Il faut faire exploser les honneurs et la grammaire. C'est ça, l'écriture, elle est vivante quand elle est rebelle. Et c'est pour ça que j'oppose un peu les gens qui pratiquent réellement dans la solitude et pas dans une tour d'ivoire, l'écriture à ce petit cercle parisien qui s'est arrogé. Alors vous disiez élite, pour moi c'est une fausse élite, parce que c'est une élite de naissance. Ils ont grandi ensemble dans les bons lycées, ils sont constitués en réseau. Olivier avait raison de citer Annie Ernaux, voilà un grand écrivain. Mais Flaubert est devenu un grand écrivain à Rouen. Giono est devenu un très très grand écrivain à Manosque. Jean Genet est devenu un grand écrivain dans les prisons. Et Céline même, il était parisien, passage Choiseul, mais en s'opposant. à ce parisianisme. Voilà, je pense qu'il faut être un peu rebelle, comme Marseille l'est aujourd'hui. C'est pour ça que je pose aussi Marseille à Paris, non pas parce qu'à Marseille, il y a plus de créateurs qu'à Paris, ce serait vraiment arrogant de dire ça, mais Marseille a toujours été une ville rebelle. Je crois qu'on doit être rebelle, si on veut être créateur.
Mmh. C'est pas un loisir qu'on exerce seulement le week-end pour se détendre. On donne son âme, donc on se met en danger quelque part pour le bonheur, mais aussi on risque du coup le malheur. Quoi.
Ben, la vraie écriture, c'est moi quand je suis dans la rue, je suis quelqu'un de plutôt optimiste, je dis bonjour aux gens, je parle, je regarde la beauté, les saisons. Et quand je m'assois à ma table de travail, l'hiver, dans cette solitude, j'ai l'impression de descendre dans des mers profondes et de rencontrer des monstres que je ne rencontre pas dans la rue. Que l'humanité est différente quand j'écris. Ces monstres que je rencontre quand j'écris et qui sortent peut-être de l'inconscient, c'est ça l'écriture. Einstein disait « Je ne suis pas plus intelligent qu'un autre, je me concentre un peu plus sur les problèmes. » L'écrivain, c'est quelqu'un de pas plus intelligent, même pas plus sensible, c'est quelqu'un qui se concentre un peu plus sur chaque mot et sur chacun de ses rêves.
Donc c'est un livre sur l'écriture, on l'a vu. C'est aussi un polar, enfin c'est un peu
un roman noir,
on va dire. Donc on assiste un peu à la chute de ce Charlie Hazard qui s'enferme de plus en plus. On va pas dévoiler les différents moments clés de l'intrigue, mais on le voit donc sombrer de plus en plus et de plus en plus isolé. Parfois avec des moments où il ne veut plus écrire et des moments où il retourne à l'écriture justement. En tout cas, voilà, ça tourne presque en rond, on va dire, comme ça, entre lui, ses éditeurs et un peu la ville de Marseille définie de manière un petit peu organique, on va dire, avec ses odeurs, parfois de l'urine, parfois des figuiers. Enfin, il y a des bonnes, des mauvaises odeurs comme ça. On est très charnel. Et il y a aussi un élément qui m'a intéressé, c'est le côté drogué. Il dit qu'il est vraiment drogué par cette écriture. Il parle même d'un écrivain qui, une fois, avait pris un marteau pour exploser sa main droite pour ne plus pouvoir écrire. Donc, qu'est-ce qu'on ressent en tant qu'écrivain? Est-ce qu'on se met dans le même état que Charlie Hazard pour écrire son histoire?
Oui, il y a deux personnages. Marseille est un personnage de roman. C'est un personnage romanesque parce que c'est peut-être la plus belle rade du monde, la plus bleue, avec ses îles, le château d'If, le Cap Canaille, etc. C'est une ville magnifique. Et en même temps, l'intérieur de la ville est de plus en plus noir. L'intérieur, justement, c'est ces jeunes qui sont obligés de se droguer, de vendre de la drogue, de s'assassiner. C'est une ville qui sombre dans la misère. Et moi, j'aime ce paradoxe de cette ville qui noircit de l'intérieur et qui pourtant regarde le plus beau spectacle quand vous allez à Campagne-l'Évêque, à la Castellane, à Caliste. Vous avez des cités qui s'enfoncent dans la boue et dans la drogue et dans la mort aussi, mais qui regardent la plus belle baie du monde. Et si les médias viennent à Marseille, si les journalistes viennent à Marseille, c'est pour voir ce paradoxe qui reste très, très médiatique. Et Charlie Hazard, il est dans ce paradoxe aussi d'être absolument heureux quand il choisit le mot juste et d'être absolument désespéré quand il est comme Robert De Niro, tout seul dans son taxi.
Eh oui. C'est une ville aussi qu'on peut autant aimer que détester, en tout cas, elle ne peut pas laisser indifférente. Alors, j'ai une autre question. C'est pour demander, vous, dans quel état vous vous mettez quand vous écrivez. J'ai une autre phrase que j'ai relevée, c'est « Charlie atteignit pendant ses jours et ses nuits de décembre une solitude et une transe qui auraient épouvanté tous ceux qui jouaient élégamment à la surface tiède des chaudes ». Alors vous, j'imagine que vous ne l'avez pas écrit à la surface tiède des choses, ce roman.
Non, mais j'ai cité tout à l'heure des gens qui se sont immergés entièrement dans l'écriture, hein, et que je lis et que je relis, c'est Flaubert, c'est le journal de Flaubert, la correspondance de Flaubert, c'est tous les textes de Jeunot, qui sont des textes hallucinants de profondeur, de beauté, de lyrisme, c'est la solitude de Genet, la solitude de Céline, et depuis 40 ans, ce sont mes amis. L'hiver à Manosque, je laissais en boire un café sur la place de la mairie ou place Marcel Pagnol, je remonte chez moi et je parle à mes amis. Mes amis, c'est Flaubert, c'est Genet, c'est Emmanuel Bob. Et je converse avec eux, je les lis, je les relis et je suis comme eux. Je crois que les vrais amis d'un écrivain sont les autres écrivains. Et je suis dans ces mots et je suis heureux chez moi au quatrième étage au milieu de mes vrais amis, les écrivains.
Vous les remerciez presque en fait de s'être isolés autant de temps, de s'être fait presque souffrance en eux-mêmes pour nous avoir offert de si beaux livres au final.
C'est une souffrance et en même temps, je regardais l'autre soir un document sur Édith Piaf, elle chantait. Et Yves Montand, qui la connaissait bien, dit « Regardez comme elle chante bien quand elle est amoureuse. Mais quand on la quitte et qu'elle souffre, elle chante encore mieux. » À travers cette souffrance, le but d'Édith Piaf, c'était même pas d'être amoureuse, c'était d'être amoureuse de son public et d'être aimée de son public. Ce que je disais tout à l'heure des écrivains, tant que tu n'as pas de lecteur, quand tu écris pour ta poubelle ou pour tes... Tu es malheureux malgré tout, parce que tu ne sais pas du tout ce que tu fais avec tes mots. Quand tu es confronté à un public, tu commences à vivre. Et Édith Piaf, devant son public, quand elle chantait l'amour ou le désespoir, elle était vraiment heureuse. Toutes ces histoires d'amour avec Cerdan, Yves Montand, son pianiste, les compagnons, c'était des prétextes à aimer son public et à être aimé de lui. Et quand elle chantait le désespoir de l'amour, c'était pour être sur scène. Elle a eu tellement d'amants, mais ses amants étaient des prétextes à écrire des chansons d'amour.
Donc on l'aura compris, Charlie Hazard, c'est quand même un peu vous. Donc vous avez vécu ce moment de refus de vos manuscrits pendant des années. Comment vous l'avez vous-même vécu ?
J'étais infirmier en psychiatrie pendant 10 ans dans les quartiers nord justement et les infirmières qui n'aimaient pas écrire me disaient toujours « Toi qui lis tout le temps, écris le cahier de rapport. Le soir, il faut écrire un cahier de rapport pour que les infirmières de nuit sachent ce qui s'est passé dans la journée. » Donc tous les soirs, j'ai fait mon heure d'écriture pendant des années. Et elles me disaient, les infirmières de nuit, « Tu devrais écrire des romans, c'est ta passion et tu fais des progrès. » Et un jour, j'ai démissionné, je me suis réfugié dans un cabanon, ici, dans les arbres, à Manosque, et j'ai commencé à écrire. Et j'ai écrit pendant 6-7 ans. J'ai envoyé mes manuscrits, qui étaient tous refusés. Et c'est là que j'ai connu la vraie humiliation, d'être confronté, justement, à un monde qui me refusait. J'en ai été souffrant, douloureux, révolté. Je devenais un peu parano aussi, aigri. J'ai compris tous ces peintres qui peignent sans trouver de galerie, ces musiciens qui ne trouvent pas de spectateurs, d'auditeurs, de maisons de disques, ces écrivains. Et j'ai commencé à écrire l'histoire de Charlie Hazard l'an dernier parce que j'allais voir un ami qui avait un cancer grave et qui était en train de mourir à l'hôpital de Manosque. Et ce mec-là, il avait envoyé 30 manuscrits durant toute sa vie à Paris, toujours refusés. Et moi, je trouvais qu'il écrivait très bien, Christian. Il a écrit durant toute sa vie... Et il a subi 20 ou 30 refus. Et il me disait, je sais que je vais mourir, j'ai un cancer du pancréas. Mais avant de mourir, j'aurais tellement aimé publier un seul livre pour ma fille, pour laisser une trace de moi, laisser une trace. Et il est mort. Un beau jour, je suis arrivé dans sa chambre, elle était vide. Je suis rentré chez moi, j'ai pris un cahier neuf, parce que j'ai toujours écrit sur des cahiers. J'ai pris mon stylo et j'ai commencé à écrire un peu l'histoire de Christian, qui était mort après 30 ans d'écriture. Alors, je ne dis pas que tous les provinciaux écrivent bien. Il est évident que les maisons d'écrivains doivent faire un tri. Mais il y a quand même, si tu es élu, parce que tu es né sur le bon côté de la Seine, tu donnes un manuscrit, même médiocre. Si tu es un journaliste, au Point, au Nouvel Observateur, à Libération, ton manuscrit sera accepté. Et si tu es un écrivain comme Christian, tu peux être refusé durant toute ta... Voilà. Je suis un peu un Don Quichotte, certes. Je m'attaque à des moulins. Ça ne sert à rien ce que je dis. Mais j'ai besoin de le dire.
Aujourd'hui, vous êtes édité, bien heureusement, chez Gallimard, une maison d'édition parisienne. Ça ne fait pas de vous, enfin, vous ne faites pas non plus partie de ce petit monde maintenant que vous êtes édité là-bas.
Mais je citais Giono, il a passé sa vie chez Grasset et chez Gallimard, les deux plus grands. Gallimard est le plus grand éditeur du monde, pas simplement. Ils ont publié tous les meilleurs écrivains français et mondiaux, Faulkner, Dostoïevski, ils ont traduit tout le monde. Mais en même temps, ça ne fait pas de moi quelqu'un qui appartient à ce cercle. Je suis très heureux, très content d'être chez Gallimard, mais je ne ferai jamais partie de ce petit cercle parisien.
Bon, il y a quand même quelques ouvertures quand même pour, qui sont possibles au final.
Oui, non, mais il y a des ouvertures. On finit par être dans de bonnes maisons d'édition, comme Giono l'a été dès son premier roman, Colline. Hein. Mais lui-même.
Vous parlez de l'égalité des chances, quoi.
Pourquoi il n'a jamais eu un prix littéraire alors qu'il méritait 15 ou 20 prix littéraires pour ses 15 ou 20 chefs-d'œuvre ?
Alors que faut-il faire ? Ne faut-il pas sortir des maisons d'édition, justement, en Provence, un peu de partout ? Ce n'est pas aux provinciaux, justement, de faire quelque chose.
C'est à nous de hurler contre ce centralisme. Mais regardez Actes Sud, qui est une très belle maison d'édition. Ils choisissent les manuscrits à Arles, mais toutes leurs attachés de presse sont à Paris. Quand je discute avec eux, je connais des éditrices d'Actes Sud qui me disent « Si on ne mettait pas nos attachés de presse à Paris, on n'existerait pas. »
Ouais, c'est un monde un peu kafkaïen, quoi. Avec, c'est difficile, ouais, comme vous disiez, de lutter contre.
Tous les petits éditeurs que j'ai connus en province ferment les portes les unes après les autres.
Parce qu'au final, il faut quand même vendre. Ouais.
Voilà.
Donc il faut un relais médiatique aussi. Donc au final, on passe toujours par les mêmes réseaux, quoi.
Exactement.
Bon, merci beaucoup. René, peut-être vous avez quelque chose à ajouter, peut-être on va parler peut-être de votre actualité lors des correspondances. Il y aura une lecture de vos livres, il me semble. Enfin,
moi, je suis interviewé sur la plage par un ami, Pascal Jourdana, qui vit à Marseille. Et puis, on se voit depuis des années. Donc, il aime bien mes livres. Il va m'interviewer. C'est un beau moment parce que je suis heureux d'être invité aux correspondances. Vous parliez tout à l'heure avec Olivier. Je crois qu'il y a un truc très insolite. Ce sont les écritoires. Moi, je suis invité dans pas mal de fêtes du livre. Que des écrivains comme moi parlent sur un podium, c'est banal. Parce qu'on est habitué à parler partout sur des podiums, et puis bon, les gens nous écoutent, mais ça ne change rien à leur vie. Ce qui change leur vie, c'est d'entrer dans un écritoire, dans un jardin, dans un clocher. Je me souviens, il y a quelques années, je montais dans le clocher de Vols, où il y avait un écritoire. Et une femme en descendait. Elle était rayonnante. Et je lui dis, vous avez l'air heureuse. Et elle me dit, vous n'imaginez pas, depuis 20 ans, je suis fâchée avec ma mère. Je devrais lui écrire, mais quand je m'assois à mon bureau, je n'ose pas, je suis bloqué chez moi. Il y a 20 ans qu'on ne se parle pas. Et là-haut, dans ce clocher, il y avait une table, il y avait du papier, il y avait des pigeons. Je me suis assise et j'ai écrit à ma mère. Il y a 20 ans qu'on ne se parlait pas. Et là, je lui ai dit, maman, j'ai envie de te parler. Parce que c'était un clocher, elle était dans le ciel et ça a cassé ses habitudes. Et donc, elle s'est remise à parler à sa mère. Et je trouve ça, c'est un des aspects les plus insolites, les plus beaux, parce que ce n'est pas un écrivain qui parle à des milliers de gens, ce sont des milliers de gens qui se mettent à parler, notamment leur mère. J'ai rencontré une petite fille dans un jardin qui écrivait, dans un écritoire. Elle dessinait, elle devait avoir 5 ou 6 ans, elle ne savait pas écrire, elle dessinait. Et je lui ai dit, tu écris à qui ? Et elle m'a regardé, elle m'a dit, j'écris au monde entier pour lui dire bonjour. Et j'ai trouvé ça très beau. Dans des histoires comme ça, comme je vis dans la ville et que je discute avec tout le monde, je pourrais vous en raconter des tonnes. Un jour, un couple d'instituteurs que je voyais passer depuis des années, main dans la main, 30 ans, éclairés par l'amour, ils allaient à leur école en se tenant par la main. Et puis un soir, je vois l'instituteur tout seul qui attendait une pizza comme moi au fourgon. Et il était seul, il paraissait triste. Et je lui dis, c'est la première fois que je vous vois tout seul. Et ce mec éclate en sanglots. L'instituteur éclate en sanglots. Et je lui dis, mais qu'est-ce qui vous arrive ? Et il me dit, ma femme m'a quitté. Mais je lui dis, mais vous sembliez si heureux. Qu'est-ce qui s'est passé ? Et il me dit, je ne sais pas. Pendant les correspondances, je suis entré dans une chambre d'écriture. Je lui ai écrit une lettre d'amour. 10 pages d'amour. Je lui ai envoyé. Elle l'a reçue. Elle a fait ses bagages. Elle est partie. Et ça, c'est toute la force de l'écriture. La force de l'écriture, c'est avoir le courage d'écrire à sa mère dans un clocher, parce qu'on n'écrit jamais dans un clocher. Mais c'est aussi envoyer une lettre de 10 pages, une lettre d'amour, et être largué par sa femme, parce que peut-être que cette lettre était trop lourde à porter.
Ouais.
C'était, les mots sont plus forts que tout. Donc voilà, c'est la force de cette fête, c'est notamment les écritoires, parce que personne ne le fait ailleurs.
En tout cas, en tant qu'écrivain, ça vous fait du bien un peu de vivre cette littérature, de voir qu'elle est vivante, pleine d'anecdotes, pleine d'humanité au final.
Oui, c'est plein d'émotions. Le mot qu'on n'a pas prononcé, Jean Genet dit, la littérature c'est rien d'autre que des mots qui tournent autour d'une émotion. Et bien voilà, quand quelqu'un rentre dans une chambre d'écriture, dans un écritoire, il est en contact avec ses émotions, il prend un stylo et il raconte ce qu'il a de plus profond, de plus violent. Ce que j'appelais ces monstres, il est à la rencontre de ces monstres. Et ça, tout le monde peut le faire à Manosque. Les 10 ou 15 000 personnes qui viennent ici peuvent s'asseoir dans les arbres, sur la place de la mairie, ou dans une cave, n'importe où, et être en face de ces rêves et de ces monstres.
Merci beaucoup René Frédis, on va dire que ce sera la phrase de la fin. Encore merci beaucoup, encore merci Olivier Chaudançon, directeur des correspondances, d'avoir accepté notre invitation. On se donne rendez-vous dès demain pour une autre émission spéciale présentée par François Malabave. Cette fois, on va se quitter avec Emmeline Bertrand-Belin, le titre requin pour terminer, Bertrand-Belin, que nous retrouvons au cours des correspondances. Bonne journée à tous, encore merci à vous deux et à demain.
Merci à vous. Au revoir.
Merci Meya et à demain.
J'ai passé la journée, je ne peux pas dire. J'ai passé la journée, je ne peux pas dire. La journée, je ne peux pas dire.